Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French. On mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, vous écoutez le programme en français en ce samedi sur Radio SBS. Au programme aujourd'hui de la culture, bien entendu, nos rendez-vous avec la communauté. Et si on parlait de gastronomie pour commencer cette émission ?
SBS Food a tous les ingrédients pour votre prochain repas. Vous y trouverez des milliers de recettes issues des cuisines du monde. Essayez les petits plats des experts de SBS Food et regardez comment ils les réalisent pas à pas. sbs.com.au/food.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Alors, on va parler tout à l'heure de l'historique de French Suite chez vous à Perth, mais d'abord, j'aimerais aborder cet article qui a paru dans Perth Now la semaine dernière. C'est concernant les macarons Tim Tam, si je peux l'appeler ainsi, et les Tim Tam très connus en Australie, un biscuit emblématique. Racontez-nous comment est venue l'idée de cette expérimentation.
Alors tout commence déjà avec une grande passion pour le macaron en général. À Maison Saint-Honoré ou à French Suite, c'est le même business. Maison Saint-Honoré, c'est notre café où la production est. Et French Suite, c'est notre magasin en ligne où les gens peuvent commander en ligne. Donc du coup, à Maison Saint-Honoré, on adore le macaron. On expérimente souvent de nouveaux goûts. On cherche toujours à évoluer et puis on s'ennuie assez vite, alors du coup on change très souvent de goût. Ce qui est génial avec le macaron d'ailleurs, c'est un super produit et puis on s'éclate, hein, faut avouer, avec ce produit. C'est toujours un challenge de chercher la bonne texture, de chercher le bon goût. Et Laure, ma business partner, elle a eu cette idée d'utiliser le Tim Tam pour faire une ganache chocolat blanc Tim Tam avec un chocolat blanc qu'on importe de Belgique.
Ouais.
Et on broie du Tim Tam à l'intérieur pour ensuite en fait faire cette ganache, ce filling et remplir le macaron avec. Donc du coup c'est une idée qui est venue comme ça de Laure. Je pense qu'elle a été inspirée parce que on parle beaucoup du cookies and cream, du goût Oreo qui est très américain.
Ouais.
Et nous on adore l'Australie, on adore la France et on s'est dit pourquoi pas fusionner un peu de l'Australie et de la France dans un macaron. Donc voilà d'où est venue l'idée.
Et la réaction de la clientèle pour l'instant ?
Pour l'instant ça c'est très très positif. On a déjà vendu toute notre première fournée en l'espace de 2 à 3 jours. Puis du coup, les chefs, ils sont obligés d'en refaire là. Donc non, pour le moment, les clients sont très contents de la nouveauté.
Et d'après ce que j'ai lu sur votre site internet, vos macarons se font avec une variété de 19 saveurs tous les jours.
Alors en ce moment, on en a 19, oui. Après, ça change. C'est vraiment on est très flexible là-dessus. Notre politique, elle est le but, c'est vraiment de s'amuser et de faire plaisir aux clients. Donc quand on a des goûts comme le Tim Tam là, qui était une expérience, on va sûrement le refaire encore pendant quelques semaines, voire peut-être il va rentrer dans la gamme permanente. Et puis s'il y en a un qui marche un peu moins bien ou on trouve plus forcément l'ingrédient, parce que des fois on travaille avec des ingrédients de saison, du coup on l'arrête. Donc oui, en ce moment 19, mais ça peut changer.
Alexandre, parlons de l'historique de la maison Saint-Honoré, c'est à Caversham et aussi à Floreat.
Exactement. Donc nous avons deux boutiques. Alors l'histoire commence en 2010. Pour faire vite, j'ai euh, j'ai monté cette boîte en 2010 suite à ma passion pour la pâtisserie française et puis le manque de bonnes pâtisseries à Perth dans Western Australia. Donc du coup, en 2010, j'ai commencé à faire les petits marchés, les marchés forains. Et puis très vite, on a monté des magasins. Et ensuite, on a voulu ouvrir la production à la clientèle. De ce fait, on a ouvert dans la Swan Valley, qui est une région touristique et viticole. Donc à cet endroit-là, nous avons pris un bâtiment pour pouvoir faire la production et en même temps la vente sur place. Donc on l'appelle la Macaron and Cake Factory. Donc si vous avez l'occasion de passer dans la Swan Valley un jour, n'hésitez pas à venir. Et puis récemment, l'année dernière, on a ouvert un petit café. Alors là, c'est un café de quartier. Moi, j'adore. On fait partie de la communauté du quartier de Floréat.
Ouais.
Et c'est un grand plaisir de les servir là-bas. Donc oui, ça c'est le deuxième petit magasin. Et en même temps, on a ouvert French Suite, donc le site en ligne pour justement pouvoir servir Toopers et essentiellement les gâteaux d'anniversaire que l'on fait seulement sur commande. Donc c'est pas possible de les acheter en magasin parce qu'on les veut frais et ils sont faits tous les soirs par nos chefs et livrés tous les matins par nos livreurs.
Voilà, et donc ce site c'est frenchsuite.com.au.
Voilà, frenchsuite.com.au. Ouais, exactement.
Alexandre, parlons un petit peu de votre parcours professionnel et qu'est-ce qui vous a emmené ici en Australie?
Ah bah alors moi je suis arrivé ici à l'âge de 18 ans, je suis venu juste après le bac, donc high school.
Oui.
Dès que j'ai fini high school à la Réunion, donc moi je viens de l'île de la Réunion qui est une petite île française proche de Maurice dans l'océan Indien et on n'a pas beaucoup d'universités. Donc mon père m'a dit que si je devais continuer mes études, c'était soit aller en métropole, mais il aurait bien aimé que j'apprenne l'anglais en même temps. Donc il m'a proposé soit le Canada, soit l'Australie. Puis il n'y avait pas photo, c'était l'Australie. Donc du coup, je suis venu en Australie en 2007 pour continuer mes études à l'université de Murdoch University, et en tant qu'ingénieur en énergie renouvelable. Alors rien à voir avec la pâtisserie. Cependant, mon père, lui, étant pâtissier, j'ai baigné dans le monde de la pâtisserie toute mon enfance. Et puis on va dire que la passion m'a rattrapé. Et j'ai fait mon premier stand de macarons au marché forain de l'université en 2009,
ouais.
Fin 2009. Et puis après de là, voilà, c'était l'effet boule de neige. J'ai adoré ce que j'ai fait. J'adorais ce contact avec les clients. J'adorais la création des produits. Et puis du coup, ben un an et demi plus tard, j'ai arrêté les études et je me concentrais 100% à ce petit business qui est Maison Saint-Honoré.
Et j'imagine que vous êtes présent sur les French festivals qui ont lieu à travers Perth.
Alors oui, ce sont les derniers festivals qu'on fait justement. On a arrêté les marchés forains, on a arrêté tout ça. Même si pourquoi pas recommencer un jour si j'arrive à monter une équipe, mais c'est juste manque de temps, on va dire. C'est pas du tout la passion qui me manque parce que les marchés forains c'est vraiment super, mais. Mais les festivals, ouais, on a continué. Donc le Bonjour Perth Festival qui a lieu une fois par an, donc ça on continue à le faire et puis à représenter un petit peu la France comme on peut ici.
Alexandre, parlez un petit peu de ce que vous avez vécu avec l'arrivée du coronavirus et l'impact des restrictions il y a quelques mois.
Ah oui, alors. Le coronavirus, un moment qui est difficile pour tout le monde, hein, peu importe ce qu'on fait, j'imagine, et notamment étant entrepreneur, c'était un moment de doute, un moment qui était assez difficile. On a eu beaucoup de chance parce que du coup le site internet existait déjà à l'époque et du coup le gouvernement nous mettant des restrictions et nous demandant aussi de fermer pour la sécurité de tout le monde. Donc on a dû passer tous les magasins juste en takeaway, ce qui a été une chute énorme du trafic et une chute énorme des ventes au niveau des magasins.
Ouais.
Donc ça nous a beaucoup bridé. Cependant on a décidé du coup avec Laure, ma business partner, on a décidé d'investir dans le marketing en ligne et du coup avec tous ces gens qui restaient chez eux, on s'est dit c'est le moment d'envoyer de la publicité et de faire travailler le site internet et ça a pas manqué, les gens étaient très ont répondu positivement et ont beaucoup commandé sur le site, donc ça nous a permis de compenser et de pouvoir passer cette crise sans trop de casse, on va dire. Et puis aussi le gouvernement je dois dire a été vraiment magique pour nous les entrepreneurs, avec les job keepers, avec les aides qu'ils nous ont données au niveau du cash flow. C'est encore un grand merci à l'Australie et fier d'être de faire partie de ce pays en ce moment.
Et donc, d'après ce que je comprends, avec le déconfinement, la reprise commerciale en Western Australia, le bilan est positif pour vous pour le moment ?
Pour le moment, je touche du bois, oui, on se plaint pas. Là, l'économie a vraiment bien repris. Les gens sortent et consomment. On n'a plus vraiment de restrictions, plus de grosses restrictions au niveau de nos cafés. Donc le site internet a un peu chuté, je dois avouer que c'est triste. Mais derrière, les cafés ont repris et la vie a repris. Donc non, franchement, un grand merci à tous nos clients aussi qui nous ont suivis pendant tout ce temps, et ceux qui pouvaient pas venir au café, qui ont commandé sur le site et qui maintenant reviennent nous voir au café. Un grand merci de leur support, ça fait vraiment plaisir.
Vous écoutez Le Français sur Radio SBS.
J'ai besoin qu'on m'aime, mais personne ne comprend ce que j'espère et que j'attends. Qui pourrait me dire qui je suis? Et j'ai bien peur toute ma vie d'être incompris, car aujourd'hui je me sens mal aimé. Je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer. Et ont-ils cherché à savoir d'où me viennent mes joies? Et pourquoi ce désespoir caché au fond de moi? Si les apparences...
Et c'était Claude François, Le Mal-Aimé, une chanson que vous aurez bien sûr reconnue si vous avez adoré cette pub pour un supermarché en France. Vous avez sûrement vu cette pub sur Internet. Allez, courte pause, on se retrouve dans quelques instants. On parle maintenant à Dan Sanders. Dan Sanders, c'est le vainqueur du Dakar l'année dernière et il remet son titre en jeu. D'ici une dizaine de jours, ce sera bien entendu à l'antenne de SBS.
Well, Dan Sanders, 1 year on, look at you in Melbourne with the trophy just by your side. Are you ready for it?
Yeah, we're here. We're going to go try and go back to back. We've had a really great 25 year and... Yeah, winning 4 out of 5 races and, winning the Dakar, then the World Championship. So pretty proud and, almost a perfect season. But, we're here in Melbourne. We're here for my documentary with Red Bull and, ready to show the world, everyone, sort of what I get up to outside of racing and in racing.
So that documentary will be on SBS, of course. How was it for you to put all this together, to have a team putting all this together, to tell your story your way?
Yeah, it's pretty unique. So it's just something that came up during the year with, I think, Red Bull, and everyone saw what I was, getting up to this year, and with SBS backing us as well. So it's really, really special to show the Aussie fans and the motorsport fans, a little bit behind the scenes and what I get up to, not just in the racing and the competition, but back home. And it's going to be a jam-packed, tight doco because I get up to a lot of things and trying to share the story and let everyone know my background. So it's pretty pretty unique and pretty special, and I'm happy with how it is.
Can we see you around apples and bees and your beehives and all this?
I think you'll see a little bit of that. I'd say so. There'll be a bit of sand, there'll be a bit of desert, there'll be a couple of apples, a few bees. So yeah, it's just a part of my life, and it's just the normal to me, and keeps me busy. But it'll be good to share with everyone what I get up to.
Now let's talk rally. What have you learned after this victory? Last time I saw you was in the desert. I was lifting that particular trophy for you. But what sunk in this year for you?
I think, you know, we just think of the 2025 season. It was a great year, but we just put it on the shelf and leave it there. And it's just a new start to the next year. And, you know, once the race starts, no one cares if you won a race before or not. We're there to fight and win that race. So I think, you know, that's my mindset going into it. You start fresh and it's a new challenge. And, yeah, you want to be the next Dakar winner. So we'll try and go back to back. That's hopefully what it will be. But, yeah, look, everything's running really smooth and it's a really good a lead up to it. And, yeah, good bike, good body again. And, yeah, we just need to stay consistent and be ready for whatever Dakar throws at us.
So 2026, the route is very different than last year. This year is kind of a mirrored. You're week one and week two repeating a little of what's happening in week one. How much do you prepare for? What was your preparation for this?
We just look into the route and see where we're going. There's no empty quarter, so we know. There's not a lot of sand dunes at the end of the race, which is sort of good for me, but it also means that there's navigation all the way to the finish line as well. So anything could happen up until the last day. And yeah, it looks like a lot more rocks, especially when they're giving the cars extra pit stops for some tyre changes. So that's just telling us moto riders it's going to be rocky. So, which means it's difficult navigation. So we have to be ready every day. And not much of a strategy. We just we'll look at the route and see, you know, depending on weather as well. You just never know what's going to happen. So you can't make a plan. You just ride every day as fast as you can. And, just don't make any big mistakes with the navigation or with the body or bike.
Tablets last year were a little bit of an issue. How much work has been done this year to make sure this doesn't happen again?
Good question, because I don't know if anything has been fixed. It'll be interesting to see. It's more with the time back if there is a mistake. Like, every race was a little bit inconsistent. Some riders got a lot of time back. Some riders got, you know, no time back. And at Dakar, it's very scary because there's a lot on the line. If it is a tablet fault that causes a Dakar victory for a rider or a driver, it's pretty scary, and you don't want that. No one wants that to happen. You know, you just want a nice, clean race, and, you know, the fastest rider wins. And that's we don't know what's going to happen with that. Hopefully they have a new rule in place with the time and a strategy of what they're going to do if something happens at X kilometre to the next one and they wipe that out or what. But I think it's just got to be fair and realistic.
Have you been in conversation with the race organisation and so on about this?
Our team managers have, I think, but no one's made a really quick decision or given anyone a quick answer with what their plan is, or I'm sure it'll come up just before the race with what happens. And the best thing for us to do is just pull the phone out and start filming, because that's the only proof you can have to fight the officials at the end of the day and the world. But no one wants to, you know, that's just our safety really with the race. If, you know, it happened to me when I was leading this year and I was leading the race and the tablet failed and I'm like, well, what am I meant to do? And it's just the unknown for us at the moment, so we just got to, you know, do that and just fingers crossed nothing happens. They have been working to try and, you know, make these tablets last longer. I don't know if it's the connection or the vibration with the rocks, but yeah, we just don't know what's going on. It's just technology, but they work really well. We just, when they are working, they're really good, but when they're not, they're not.
It's like technology, yeah.
Exactly.
The 2026 bike, what can you tell us about this? Different to the 2025, how much work went into it, and what can you reveal? What sort of secret can you reveal?
There's no secrets, really. It's very similar looking. We've just done some updates and made things better, just more suspension tuning, I guess, and the engine updates, everything with technology as well. It's just mapping and just getting more traction and finding a better way, an easier way to ride the bike without using more energy. So, yeah, nothing too crazy. We just keep working, and we just did a lot of testing for next year as well. So, yeah, it's nothing crazy. We're comfortable and confident in what we have, and, yeah, I'm sure we can deliver a great result.
Now, next to you, there's the Dakar trophy and the World Championship trophy. Which one was the hardest to claim this year?
Well, the Dakar is a 14-day race, but it is a part of the World Championship as well. So it's very hard to get that. But that was the easy part at the end, because I still had four more races to grab that, which I only had to do three more after the Dakar because I won it with one round to go. So that was pretty special to, I think, just have the consistency throughout the season and to win, you know, a clean sweep up until the the last race, which I already won. So it was a pretty nice feeling, and I don't know if any other rally riders have done that. So for the history stuff, it's cool. But yeah, we forget about that now. That's just for the man cave or the pool room to look back at in the at the end of the career. But yeah, we just keep moving on and look at the next one.
And one last question. Last year we had a fist pump thing running. Are we going to do this this year?
Yeah, we can start the fist pump. How many? Number one.
Number one. Thank you,
Dan. Cheers, mate. Il a plu dans la chambre. Est-ce que c'était mes larmes ou juste un bout de toi qui part? Je crois que j'ai les mains qui tremblent. Je cherche un peu la flamme. Est-ce qu'il reste nous quelque part? Mais quand tu me regardes, tu m'aimes encore.
La pluie de Louane, une de nos chansons préférées cette année en 2025 sur Radio SBS. Courte pause et on se retrouve dans quelques instants.
Donnez votre opinion sur les sujets qui vous intéressent. Envoyez un SMS au 04 88 79 93 23 ou rejoignez notre page Facebook pour participer à la conversation. Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Le plaisir d'avoir Myriam Arbouz sur les ondes de Radio SBS en Australie. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Jean-Noël Ducasse, merci de me recevoir.
Vous êtes en Australie pour des concerts de musique baroque.
C'est et ça, oui.
Le premier, c'est dans le cadre du Peninsula Summer Music Festival qui se trouve dans le Victoria. Peut-être d'abord, parlons du répertoire que vous allez présenter et qui sera sur scène avec vous.
Alors, il s'agit d'un gala d'opéra baroque. Donc, nous entendrons des œuvres italiennes, françaises, anglaises, du début de l'opéra, c'est-à-dire de la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, jusqu'à Purcell, fin du XVIIe siècle. Donc, il y aura du Monteverdi, du Landi, du Salomone Rossi. Il y aura aussi du Lully, d'une certaine Mademoiselle Duval, et puis donc des œuvres de Henry Purcell du XVIIe siècle.
Alors je rappelle que le concert aura lieu le 3 janvier 2026, c'est au Flinders Civic Hall. C'est un endroit que vous connaissez ?
Alors, pas le Civic Hall de Flinders. Je suis déjà venue au Peninsula Summer Music Festival il y a quelques années, lors de ma première visite en Australie, c'était en 2016. Et j'avais joué à Shoreham, je crois. Donc, je ne connais pas cet endroit, mais je suis sûre que c'est un endroit très bien.
Et donc, c'est la soirée, l'inauguration, la soirée d'ouverture.
Absolument,
donc,
oui.
Et vous êtes la principale invitée de cette soirée.
Alors, on est trois merveilleux solistes avec mes deux collègues Jacob Lawrence et David Greco qui sont ténors et barytons et qui seront avec moi pour chanter ces extraits d'opéra avec le petit ensemble instrumental qui sera réuni avec nous.
Voilà. Et ils sont australiens ?
Alors, Jacob et David, oui, sont australiens. Je les ai rencontrés. Alors, Jacob, je l'ai rencontré récemment à Sydney lors du Messie de Handel qu'on a donné au mois de novembre et décembre avec Pinchcut Opera. Et David Greco, je l'ai rencontré aux Pays-Bas lorsque nous avions fait une Passion selon Saint-Mathieu il y a très longtemps. Voilà. Donc, avec David, on se connaît depuis très longtemps. Avec Jacob, depuis un peu moins longtemps. Mais c'est deux collègues que je respecte énormément et que j'aime beaucoup.
Il y aura un deuxième concert, et cette fois ce sera sur le thème de Versailles in Love.
Oui, alors ce sera plus tard à Ballarat, dans un autre festival. Et donc là, effectivement, c'est un programme que nous avions donné avec l'ensemble 6K2, donc l'ensemble de Hannah Lane et Nicholas Pollock. Nous avions donné, lorsqu'ils étaient venus nous rendre visite à Tours, donc nous habitons à Tours avec mon mari en France, sur la Loire, donc. Et donc nous avions joué ce programme en France lorsqu'ils sont venus, et on s'est dit que c'était une belle idée de le reprendre pour le public australien de Ballarat.
Et vous aurez d'autres musiciens qui vont vous accompagner ?
Oui, bien sûr, il y aura des violons, il y aura Oui, donc il y aura deux violons. Je crois qu'il y a aussi une flûte à bec, mais je ne suis pas certaine. Voilà, mais nous serons un plus petit comité que pour le gala d'opéra, parce que c'est un répertoire qui nécessite un peu moins de force, on va dire.
Et est-ce qu'il y aura d'autres tournées en Australie en 2026?
Alors... j'ai déjà deux choses qui sont inscrites dans l'agenda. C'est le CMLA de Handel avec Pinchcott Opera à Sydney, donc fin novembre, début décembre 2026. Et puis un concert avec l'ensemble Genesis Baroque, ce sera en Victoria, mais là je ne sais plus exactement où. Ce sera un concert Bach, Telemann, musique allemande, 18e, Graupner. Et des choses, des cantates. Je crois que là, pour le coup, je serai la seule chanteuse, oui.
Peut-on parler de votre parcours professionnel?
Bien sûr, oui.
Et racontez-nous un petit peu quand vous avez commencé et où?
Alors, c'est une très, très longue histoire. Je suis née à Rennes, en Bretagne. Et il se trouve que ma maman et mon papa aimaient beaucoup la musique, mais n'étaient pas musiciens. Mais ils tenaient beaucoup à ce que je reçoive l'éducation musicale qu'eux n'avaient pas pu avoir. Et maman étant enseignante dans une école primaire, il y avait en parallèle de cette école ce qu'on appelle une maîtrise, qui était un chœur d'enfants, en fait, qui était associé à l'école, qui permettait aux enfants d'avoir des horaires aménagés pour chanter, avoir des cours de solfège, de piano, de technique vocale, et faire des concerts, etc. Donc j'ai rejoint cette maîtrise quand j'avais 9 ans et ça durait 6 ans. Donc pendant 6 ans, j'ai fait beaucoup, beaucoup de chant choral à raison d'une dizaine d'heures par semaine, du solfège, du piano, de la technique vocale. On partait en tournée, on faisait des enregistrements, on chantait aussi à l'Opéra de Rennes quand il y avait besoin d'enfants. On a fait aussi des créations pour chœur d'enfants. Et donc j'ai attrapé le virus dans cet endroit qui était un repère de gens un peu différents, on va dire, un peu zèbres, comme on dit aujourd'hui, et qui sont aujourd'hui soit musiciens, soit qui font d'autres choses artistiques ou de grande envergure. J'étais vraiment dans une espèce de famille très créative et très... c'était un très bel endroit pour se construire, en fait, en tant que jeune hypersensible et avec des talents de vocaux ou pianistes ou autres. Enfin, toutes sortes de créativité étaient fortement émancipées. Voilà, donc j'ai commencé là. Et le virus ne m'a pas quittée. Lors de mes études supérieures, j'ai continué au conservatoire. Je suis rentrée dans une classe de chant lyrique. Et j'ai continué à chanter dans les chœurs qui étaient à Rennes. Puis je suis partie à Versailles, au Centre de musique baroque. Et ensuite, j'ai étudié au Conservatoire d'Amsterdam, où j'ai eu mon master d'opéra. Voilà.
Absolument. Donc, j'ai parcouru votre site et j'ai vu que vous avez aussi enregistré plusieurs CD.
Oui. Oui, quelques-uns, oui. Notamment de la musique allemande. Et puis là, j'ai un disque qui va sortir avec un ensemble que j'aime beaucoup, qui est un ensemble français qui s'appelle Comet Music, qui va sortir au mois d'avril autour de Madrigo Inédit de Pomponio Nenna, qui était un compositeur italien qui était beaucoup inspiré par Gesualdo, notamment, qu'on connaît beaucoup mieux. Et il a écrit plusieurs livres de Madrigo qui sont... très peu connu, et c'est de la musique formidable, et je suis très très heureuse que ce disque sorte prochainement.
Et quel est le message que vous auriez peut-être à encourager les gens? Ce sont surtout les francophiles qui nous écoutent,
oui.
pour les encourager à venir assister à vos spectacles prochainement.
Bien sûr. Alors, je pense qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, tout va tellement très vite, on a accès à tout sur son téléphone, mais on se laisse plus trop le temps de respirer, de se laisser toucher par la beauté de certaines choses, tout simplement. Et je pense que c'est toujours très important de se dire que d'aller voir une œuvre d'art dans un musée ou d'aller à une pièce de théâtre ou à un concert, quel que soit le style de musique, ce sera jamais la même chose que de le regarder sur son écran à la maison. Et je pense qu'on a besoin aujourd'hui, pour retrouver notre cohésion à tous et notre humanité, de retrouver les vraies choses de l'art notamment. Et donc c'est pour moi très important d'aller voir mes collègues performer, mais aussi d'aller au musée voir des œuvres. Et parfois, je me souviens quand j'étais au Conservatoire d'Amsterdam, les premières années, le musée Van Gogh était juste à côté, et j'allais juste voir une un tableau et je restais un quart d'heure et je ressortais, j'étais nourrie, il y avait quelque chose qui se passait. Et je pense que c'est important de se laisser toucher par, par les belles choses. Voilà, donc j'invite les gens de Melbourne qui sont pas très loin, venez, les gens de Victoria, de nous rejoindre à Flinders le 3 janvier et d'aller voir aussi les concerts des autres, de mes autres collègues. Il y a vraiment beaucoup de choses très différentes, c'est très varié. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et voilà, je suis aussi très contente de voir que c'est l'ensemble Offspring qui est en résidence et qui va créer plusieurs œuvres qui ont été commandées pour ce festival.
Myriam Harbouze, merci d'être intervenue sur les ondes de Radio SBS. Et
avec grand plaisir.
Bon séjour en Australie.
Merci beaucoup. Merci Jean-Noël Ducasse.
À bientôt. Au revoir.
À bientôt. Au revoir.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Je reste pas si tu ne restes pas. Vas-y, dis-moi si tu détestes moi. Allez, dis pourquoi se fait la gueule. Je reste pas si tu ne restes pas. Si tout autour de moi tourne autour de toi, ne te retourne pas. Laisse-moi pleurer seule. Là, sur le sable, dans une goutte d'eau, je me noie. Le soleil coupable brûle mon dos. Tu t'en vas
dans mes bras. Pourquoi tu restes pas? Reste là, reste là, reste là, reste là.
C'était Tessa B avec Océan de toi.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
J'ai le plaisir de recevoir la réalisatrice mauricienne australienne Annick Sadou-Currington en marge de la première de son premier long métrage Code Noir. Annick, bonjour et bienvenue sur SBS French.
Bonjour Bertrand, je suis ravie d'être là.
Ça fait vraiment plaisir de pouvoir nous entretenir avec vous de ce film, un film qui parle d'une histoire extraordinaire, l'histoire de l'esclavage en île Maurice. Qu'est-ce qui vous a poussé à raconter cette histoire de Code Noir et à quel moment avez-vous senti que ce film devrait exister?
Tout d'abord, ça a commencé par le fait que j'adore le théâtre et arriver ici, je voulais vraiment participer dans tout ce qui est théâtral ici. Et j'ai compris que c'était assez limité à l'époque. Du coup, moi, j'ai commencé à chercher et à travailler avec d'autres artistes locaux. Et à un moment donné, avec Lee, on s'est dit, on aimerait bien faire quelque chose de beaucoup plus grand et chercher une histoire à raconter. Et comme il sait que moi, j'adore raconter des histoires, il m'a dit, ben, écoute, cherche ce que toi, tu veux faire. J'ai dit, OK. Et là, j'ai commencé à chercher et j'ai dit, quelle histoire vais-je raconter? Et je dis, bon, je vais raconter une histoire de mon île. Mais sous-jacent, il y avait un genre de mal-être qui commençait à s'éveiller en parlant de ça, en parlant de qu'est-ce que je peux vraiment raconter. Et c'est à partir de là que j'ai compris que l'histoire avait un lien très, très fort avec ce que je ressentais. C'est comme cela que Code Noir a commencé à émerger petit à petit. C'est-à-dire, je voulais raconter l'histoire de mon île et à quelle époque de mon île. Et finalement, l'histoire de l'esclavage a commencé à surgir. Et là, j'ai compris que, ouais, là, j'ai tapé dans le mille. C'était quelque chose qui a commencé à prendre de l'ampleur et j'avais aucun pouvoir sur ça.
Vous venez de parler de Lee. Lee Currington, c'est votre mari. Mais ce film, ce n'est pas seulement vous et votre mari, c'est quasiment une histoire de famille. Vous avez des sœurs, ou enfin, j'ai vu dans les credits beaucoup de noms qui indiquent que c'est une affaire familiale quand même. Beaucoup de membres de votre famille ont contribué à
la... Oui, oui, l'histoire vient de moi. Petit à petit, quand j'ai commencé à parler à ma famille de ce que je faisais, ils ont compris aussi. Ils ont compris que c'était important pour moi. Là, à ce moment-là, tout le monde est venu me soutenir dans ce cheminement. Et non seulement ça, et les artistes locaux aussi étaient vraiment, vraiment présents. C'est grâce à eux au fait que j'ai pu raconter cette histoire.
Des artistes locaux, il faut savoir que ce film a été tourné entièrement en Australie, avec des paysages qui ressemblent, enfin, qui évoquent énormément, donc des paysages mauriciens. Nous allons y venir. Vous parlez d'un malaise intérieur qui vous a conduit à explorer votre héritage, et c'est ce qui vous a aussi inspiré. Comment cette démarche personnelle s'est-elle transformée en une œuvre cinématographique?
Nous, les Mauriciens, en étant en Australie, j'ai vu qu'il y avait certains traits qui étaient toujours là, même si on ne le sait pas. Et j'ai observé ça chez nous, dans ma communauté, et j'ai vu qu'il y a ça aussi dans tout le monde, en fait. Et c'est là que moi, j'ai commencé cette quête personnelle. C'était vraiment d'abord une quête spirituelle qui a amené à ça. D'où j'ai vu qu'il y a un mal-être qui est là. On souffre, mais on ne sait pas pourquoi. On a une nostalgie, mais on ne sait pas pourquoi. Et moi, je me suis posé vraiment la question principale, d'où vient cela? Si c'est pas moi, mais d'où ça vient? Et là, j'ai compris que j'étais porteur de ce code, ce qui est assez surprenant de voir que c'est aussi dans notre code d'ADN, quoi.
Code
Et on le porte sans le savoir.
noir, il faut le rappeler, c'était le code qui régissait l'esclavage dans les colonies françaises. Et d'ailleurs, le film commence avec un des articles de ce code, l'article 12 du code noir. Parlez-nous de ce code noir et de cet article en particulier qui, en fait, est abordé dès le début, donc, de ce film.
Pourquoi ce code en particulier? Pourquoi cet article en particulier? Parce que j'ai compris que en tant qu'enfant, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants des esclaves, on porte toujours ce gène, ce mal-être. Le pire, c'est que quand on parle souvent soit les blancs, soit les noirs, mais on parle jamais de ceux qui sont mixtes entre. Et donc, eux, ils souffrent encore plus parce qu'ils sont ni blancs, ni noirs, ils sont au milieu, ils savent pas qui ils sont rejetés de deux côtés. Du coup, ce mal-être est encore plus en eux que ceux qui sont soit blancs ou soit noirs. Et ça, c'est un travail que j'ai fait parce que moi-même, j'ai des enfants mixtes et j'ai vu ça en eux. J'ai vu qu'ils ne savent pas où ils se situent dans la vie. Et ça, c'est pas que mes enfants. Et là, quand j'ai remonté toutes les recherches, notamment en Martinique et tout, j'ai compris très très bien ce mal-être dans ceux qui sont mixtes et à quel point ils savent pas où ils sont dans leur vie. Et ça continue. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on perpètre ce même schéma dans toute notre lignée familiale, au fait. Et comme on dit, c'est devenu transgénérationnel.
Et ça, c'est vraiment un traumatisme qui se transmet d'une génération à l'autre, qui est partagé entre les descendants d'esclaves et même les communautés aborigènes qui ont été occupées, spoliées de leurs terres, spoliées de leur vie, enfin de leur possession et de leur identité. Donc, c'est quelque chose qui, pour des gens qui le vivent au quotidien, ça va être lourd quand même à porter.
Pour moi, j'ai vu une certaine beauté dans cela, c'est que c'est ce qui m'a permis de transcender cette peine, de transcender cette souffrance et de revenir à l'essentiel de qui j'étais. Au lieu d'être porteur de quelque chose toute ma vie et qui m'empêchait, moi, de grandir, si tu veux, de m'établir dans cette vie-ci, pour moi, le sujet, il est important, le travail, il est important pour que la génération future ne continue pas à porter ce mal-être et croire qu'ils ne sont pas méritants, qu'ils deserve pas enough dans leur vie. Et pour moi, c'est important que la génération future sache que ils sont bien comme ils sont. Ils n'ont pas à être comme les autres. La nature est bien faite comme ils sont physiquement. Intérieurement, spirituellement, mentalement, on est né différent et on doit pouvoir l'accepter tel que nous sommes.
Oui.
Et moi, je veux surtout libérer toute la génération future de cela, quoi.
Et en tant que mère, le film aborde des thèmes lourds, la maternité, la séparation, l'esclavage. Comment avez-vous trouvé l'équilibre entre émotion, respect historique et narration visuelle de ces conflits et aussi de ces moments quelquefois tendres entre parents et enfants?
Quand j'ai commencé ce travail personnellement, j'ai compris que c'était pas aussi blanc et noir qu'on le croit. D'abord, il y a la nature humaine dont j'aborde dans le film. C'est surtout ça. C'est que si on regarde l'histoire, même entre les esclaves, il y avait d'autres esclaves qui faisaient d'autres noirs esclaves. Entre les blancs, à l'époque, même dans la colonie, il y avait d'autres blancs qui étaient considérés artisans, qui n'avaient pas la même statut social que les autres. Quand on regarde tout ça dans l'ensemble, quand on essaie de sortir, ok, sors du lot et regarde, observe la situation d'un autre point de vue. Et là, on voit qu'il y a cette nature humaine qui se discrimine entre eux-mêmes. Comme moi, j'ai grandi sur une plantation sucrière aussi. J'ai vu tout ça, j'ai observé tout ça en tant qu'une petite fille. Et c'est pour ça que moi, j'ai voulu aborder le sujet d'une autre façon, de voir que malgré tout, la façade quand l'esclave il perçoit le maître, ben, ce n'est pas du tout ça ce que le maître vit à l'intérieur, parce qu'on ne connaît pas tout. On ne sait pas que lui aussi, il ment, on ne sait pas que lui aussi, il souffre, on ne sait pas tout ça. Nous, on croit de l'extérieur qu'ils sont mieux que nous. Alors que ce n'était pas du tout cela. C'est pour ça que moi, j'ai essayé d'aborder le sujet d'une façon plus humainement, la nature humaine dans tout cela. C'est-à-dire, le maître, il a aussi un cœur, il peut tomber amoureux, il peut aussi être méchant, il peut aussi être faible. Et pour moi, c'était important de montrer tout cela. Parce que c'est ce que moi, j'ai observé quand j'ai grandi. Voilà un peu comment moi, j'ai abordé la scène avec. Oui, tout ce qui est la maternité, tout ce qui est l'enfant, parce que il y a eu quand même, tout n'était pas toujours juste blanc et noir, il y avait quand même un peu de gris. Et c'est ce côté gris que moi j'ai voulu explorer un peu plus dans ce film.
Et qui ferait sortir beaucoup de conflits, beaucoup d'émotions, beaucoup de suspense aussi en même temps. Comment avez-vous travaillé avec des acteurs, notamment pour incarner les rôles aussi chargés d'histoire et de douleur ou et même de douceur?
Je ne sais pas si je l'ai mentionné avant. C'est un film qui a été financé par nous, moi et mon mari seulement. Ça nous a pris 7 ans, bien sûr. Pour faire cela, c'est-à-dire on était intéressés avec les artistes locaux avec lesquels on travaillait déjà. Et le but, c'était dur. Surtout le caractère de Henri, c'était un jeune garçon de 17 ans qui connaissait rien de l'esclavage, qui connaissait rien de tout cela. Sauf que je sais c'était quelqu'un de très talentueux. Et ça m'a pris quand même 2 ans. On a travaillé ensemble avec surtout Dave Fraser, qui est le caractère principal du maître. On répétait 3 fois par semaine. Il venait. Et là, je leur racontais l'histoire de l'humoriste. C'est-à-dire, ils ont compris mon histoire avant de comprendre le script. Et il fallait leur expliquer que c'est pas vous. Ça n'a rien, parce que je sais que Deacon, le caractère de Henry, il avait un peu de mal et me dit, mais c'est pas moi. Et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, toi, ton travail en tant qu'acteur, c'est de me donner le portrait de ce caractère le plus vrai possible pour qu'on puisse vraiment raconter l'histoire telle qu'elle est. Ça n'a rien à voir avec toi. Et c'était aussi travailler émotionnellement, spirituellement avec tous mes acteurs. C'était pendant 2 ans, on a fait un travail à côté pour pouvoir vraiment rendre ce film beaucoup plus vrai, honnête. Et je sens que c'était un peu un challenge.
C'était un challenge, travailler avec des acteurs, mais il y a aussi le travail avec votre mari, Lee Corrington, qui est responsable, qui a fait un grand travail dans tout ce qui est son, essentiellement, mais aussi dans d'autres aspects du film.
Oui.
Travailler avec lui et d'autres membres de la famille, j'ai vu Benjamin Sadou, ça doit être votre sœur. comment l'interaction avec des gens aussi proches, comment ça s'est-elle passé? Parce que dans la création, dans un espace créatif, il y a souvent des tensions qui peuvent se développer et des grosses discussions qui peuvent se développer pendant la production et soit complètement faire déraper ou faire réussir, comme ça a été le cas avec ce produit final qui est quand même époustouflant.
Comme on dit en anglais, happy life, happy wife.
Ou happy wife, happy life.
Mais ce qui s'est passé, c'est que dès le début, Lee et moi, on a cette connexion artistique qui a toujours été là entre nous deux. Son rêve, c'était d'écrire vraiment un score pour un film. C'était toujours son rêve. Et c'était l'une des raisons pour laquelle j'ai commencé à. Parce que je voyais que son talent était perdu, quoi. Je lui dis non, mais t'es trop talentueux, il faut vraiment que tu fasses quelque chose avec cela. Et oui, on a tout appris au fait. En l'espace d'un an, comme c'était pendant la période du Covid, on a eu quand même pas mal de. C'est des gens qui sont venus, des gens qui sont partis. Ça a été un peu le. Bon, ça se passe comme ça dans l'industrie de toute façon. Et à un moment donné, le cinématographe, il m'a dit je suis désolée, il y a Hollywood qui est venu, ben. Il a eu un contrat ben, dont il va être payé et tout. Hein. Ben, je dis, OK, on comprend. Et c'est là où Lee, tout de suite, s'est mis à travailler tout de suite sur le sujet avec moi. Lui, il a fait son travail de son côté, dans son département, et moi, j'ai fait mon travail de mon côté, dans mon département. Mais une chose était sûre et certaine, c'est qu'il respectait ma décision de ma vision, comme j'ai vu la chose. Oui, il y avait des tensions, parce que des fois, lui, il voulait faire un côté artistique avec le film. C'était très rare, mais à la fin, comme on dit, c'est le réalisateur qui a le dernier mot. Si on avait des discussions, c'était surtout, on voulait tous les deux, est-ce que ce soit vraiment la bonne scène, on est en train de mettre la caméra où il faut. C'était surtout de ce côté-là. Quant à ma sœur, elle, c'était mon côté artistique, c'est-à-dire, elle savait, elle, comme on a tous grandi à l'île Maurice, elle savait exactement le décor que je voulais. Il y a des moments, je lui ai dit, ben voilà, j'ai besoin de cette scène avec ça et ça. Et pour elle, c'était facile. Elle pouvait juste. C'est dommage parce que c'était elle qui prépare toute la première et tout le côté artistique du. Enfin, on est tous artistiques chez nous, quelque part. Et même mon frère, qui est aussi dans le film, on a ce côté où on a, si tu veux, dans les îles, comme on est autant, tout le monde est polyvalent.
Oui.
Et on a pu travailler et ramener cette histoire ensemble et vraiment rentrer dans tous les détails du décor. Je ne sais pas si tu as remarqué, c'était vraiment un décor différent par rapport à d'autres films de l'esclavage, parce que nous, on a voulu ramener ce petit côté de l'île Maurice, ce côté tropical dans l'histoire.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Paris, 48 degrés nord, 2 degrés est. 5h50, vous quittez votre appartement. Il fait encore nuit. Les néons claquent sur vos rétines. Un taxi. La Seine. La pluie. Soleil couchant, votre avion amorce sa descente sur l'état du Victoria. 17h50, 37 degrés sud, 144 degrés est. Melbourne.
Paris, Melbourne de Sophie Morin. Une chanson qui doit parler à certains d'entre vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour notre programme en français en ce samedi. Merci de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que toutes nos émissions, tous nos podcasts sont disponibles en ligne sur notre site internet sbs.com.au/french. Et n'oubliez pas, il y a une centaine de films disponibles pour vous gratuitement sur la plateforme d'SBS en demande à n'importe quel moment. Et le tout, bien entendu, gratuitement. Prochain rendez-vous avec notre programme, c'est demain dimanche et le reste de la semaine, mardi, jeudi et bien entendu samedi également à 13h. Bon après-midi. Et bon appétit si vous êtes toujours à table. À demain.
aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.